자, 우리 오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 말씀은
La parole d'aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 10 verset 25 à 37.
기도합니다.
Et voici, quand l'auteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui les tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulait se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus prit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Le rouèrent de coups, s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. » Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre, mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit en compassion, il s'approcha et en répandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie qui est prise soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends son denier et ce que tu dépenseras en plus, tu te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces trois tu te sembles avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Prions pour que le Saint-Esprit agisse sur l'évêque Don Gim, pour qu'il lui donne la parole dont nous avons besoin. Et prions pour que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance, la puissance, la parole. Et prions pour que nous puissions avoir l'esprit de l'obéissance. Aucun d'entre nous n'est à ce jour saint où on doit rendre le culte dominical, où on élève de ton serviteur pour qu'il puisse prêcher ta volonté selon ce que tu veux, je prie au nom de Jésus. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est amour. Il a envoyé la parole au monde parce qu'il a aimé. La parole est manifestée en tant que fils de l'homme. C'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ a été envoyé pour cela. Le monde a été attaqué par le diable dès le début et qui souffre donc. Le diable l'a divisé de Dieu pour le mener à la mort, à la maladie, à la pauvreté, au désespoir. Alors Dieu a donné la loi au monde ainsi que les sacrificateurs. Les Lévitiques sont ceux qui gardent la loi parfaitement, ils sont des pharisiens. Les sacrificateurs sont ceux qui s'occupent de l'offre des sacrifices selon la loi dans le temple de Dieu. La foi des Israélites consiste à ne plus subir un plus grand désastre parce qu'il y a la loi. Mais même ceux qui sont venus de Jérusalem peuvent être maudits par des brigands et ils sont en train de mourir. Les Lévitiques et les sacrificateurs ne peuvent pas sauver ceux qui sont en train de mourir. Seul l'amour de Dieu et l'Évangile peuvent sauver ceux qui sont en train de mourir. Le vrai amour, c'est la vie et la grâce. Jésus-Christ, c'est l'amour et la grâce. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. Même ceux qui viennent à l'église aujourd'hui sont maudits. Le diable maudit que ce, sans distinction de l'endroit, du moment et de la personne. L'Évangile est sauvé, les maudits. Les saints doivent devenir de bons samaritains. Lorsque l'Église souffre en rencontrant un brigand, toute l'Église doit se lever pour s'occuper d'elle. La religion et la loi ne peuvent pas sauver l'homme. Seul le Saint-Esprit et la vérité peuvent le sauver. Seul le vrai amour peut restaurer l'Église. Dieu est amour. Nous entendons parler de cette parole. de nombreuses reprises. C'est la raison pour laquelle nous savons très bien que Dieu est amour, mais pourquoi Dieu est amour? En fait, il n'y a aucun rapport entre Dieu et nous, parce que nous, les hommes, on était déjà scellés par le diable. Nous sommes déjà devenus les possessions du diable, alors il faut que périr. Lors du déluge de Noé, l'esprit, en fait, les néphrim, hein, qui ont été dénués, dépourvus de l'esprit, ont péri sous cette inondation. Donc voilà, Dieu peut abandonner tous ses pécheurs, c'est à son gré. Mais Dieu a aimé vraiment les hommes. Parce qu'il a aimé l'homme, c'est la raison pour laquelle il a été sacrifié pour ses hommes. Il nous a aimés vraiment. Alors, il a été sacrifié par son amour pour nous. C'est ça notre foi. Alors, nous y croyons et alors nous le remercions pour l'avoir fait. C'est la raison pour laquelle nous pouvons, nous voulons être avec lui éternellement. Si Dieu ne nous aime pas, il n'a pas besoin d'être sacrifié. Il n'a pas besoin d'abandonner son Fils unique. Et le Fils unique n'a pas besoin d'abandonner sa vie. Il n'avait pas besoin d'être insulté, méprisé, maudit par les hommes de ce monde. Il n'avait pas besoin d'être crucifié cruellement dans ce monde. Il n'avait pas besoin de terminer sa vie d'une manière tellement misérable. Mais puisque Dieu a aimé le monde, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, a été sacrifié. C'est ce que nous croyons. C'est ça l'Évangile. Alors, on a tué les agneaux et les veaux pour en donner à Dieu depuis l'ère de l'Ancien Testament. Mais le sang des animaux ne peut pas sauver les hommes. Mais ce n'est qu'une prophétie. Ce n'était qu'un symbole de ce qu'il va venir dans les années à venir. Donc, c'est une parabole, en fait. Alors, cela ne peut pas nous sauver. Mais Dieu a décidé de nous sauver parce qu'il nous a aimés. Lorsqu'il a pris cette décision, il a été sacrifié sans aucune hésitation. En fait, Dieu lui-même a décidé de se sacrifier et c'est ce qu'il a fait pour le monde, qu'il a aimé. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible que nous avons été rachetés par son sang. Il faut que nous connaissions donc sa grâce et son amour. Et il faut que nous y croyons, en fait. C'est ça, la foi et l'Évangile. Il est venu au monde en notre faveur. Et il est mort à notre place. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort. Celui qui est sans péché a subi la punition à notre place. Alors là, il a subi donc un châtiment que nous devions subir pour satisfaire les exigences de la loi. Nous ne pouvons que périr à cause de nos péchés. Nous, en fait, nous ne pouvons que périr à cause de nos péchés. C'est ça notre sort. C'était notre devoir. Mais lui, en fait, il s'est chargé de la malédiction qui nous était due parce qu'il nous a aimés. Lorsque j'étais petit, j'ai entendu parler par un professeur à l'école. Il y a eu un riche qui a accumulé beaucoup d'argent. Mais il a exercé l'injustice. Alors, il a été arrêté par la police. Et il devait donc subir 100 coups de bâton. À ce moment-là, il ne peut pas être sauvé. Hein, s'il subit un tel châtiment, mais ce riche qui avait beaucoup d'argent a acheté des hommes. Donc un homme qui lui a promis de subir un châtiment à sa place est allé à la police à sa place. Alors à la police, on lui a demandé pourquoi c'est toi qui es venu pour être châtié, parce que la personne qui est riche m'a promis de me donner du riz pour nourrir ma famille. C'est pourquoi je suis venu pour être châtié à sa place. Mais si tu es châtié à sa place, tu ne peux pas survivre. Mais mes enfants peuvent vivre. Alors ça suffit. Donc, à la police, on avait pitié de lui. Donc, il avait subi seulement 10 coups de bâton au lieu de 100. Donc, en fait, depuis le passé, une telle pratique existait. Alors, nous ne pouvions que périr, hein, parce que nous sommes pécheurs. Mais lui, le Jésus-Christ, Jésus-Christ a souffert à notre place. Lorsque Jésus-Christ a été sur la croix, il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi tu m'abandonnes ainsi ?» Pourquoi tu m'abandonnes ainsi ? Parce que selon les pensées humaines, on ne pouvait pas comprendre le cœur de Dieu, son plan. Mais Dieu a tellement aimé l'homme. Pourquoi tu m'abandonnes ainsi ? Parce que tu as aimé vraiment le monde. Et alors c'est pourquoi le Fils a subi la malédiction à notre place. Donc il faut que nous comprenions son grand amour et il faut que nous y croyons. Nous sommes devenus pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons compris son amour. Nous sommes devenus ministres, nous sommes devenus saints, nous sommes devenus membres de l'Église parce que nous avons cru son amour. Donc, quel est le péché qui nous amène à la mort? Même si nous avons écouté beaucoup de paroles en la matière, il faut que nous comprenions plus correctement, plus exactement là-dessus. Qu'est-ce que c'est le péché? À cause d'Adam, toute l'humanité, tous les hommes sont devenus des pécheurs, hein? Parce que l'esprit de l'homme est mort. Si notre esprit est mort, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Adam a péché au jardin d'Éden. Donc, à cause de lui, tous les hommes sont devenus des pécheurs. Donc, il n'y a aucun juste dans le monde. Et donc, il y a eu seulement Adam. Hein? Et alors, tous les hommes qui ont été en Adam sont devenus des pécheurs. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de juste dans le monde. Et alors, Adam qui a violé la loi de Dieu est devenu un pécheur. Son esprit est mort. C'est pourquoi tous les descendants d'Adam sont tous des pécheurs. Alors, les pécheurs doivent périr, ils doivent entrer dans le feu de l'enfer. Il n'y a aucun moyen de l'éviter. Donc si Dieu a pitié de ses pécheurs, si Dieu donc veut les sauver, il faut que celui qui est sans péché meure à la place des hommes qui sont devenus des pécheurs. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé d'envoyer dans le monde celui qui est sans péché. Donc celui-là a été crucifié à notre place. Pourquoi? Donc Jésus-Christ qui a été crucifié, et a été reconnu comme quelqu'un sans péché. Pourquoi lui aussi, il est sans péché. Hein? Alors pourquoi on le reconnaît ainsi? C'est très important en fait. C'est un point très important que nous devons absolument comprendre. C'est une partie qui peut sauver nos âmes. Nous avons entendu parler beaucoup de paroles en ce qui concerne la justice de Dieu. Alors Dieu aussi nous a demandé de chercher d'abord sa justice. Lorsque nous parlons de cette justice, lorsque nous écrivons le mot justice et on met le mot le caractère chinois, un mot qui signifie ce qui est correct. Donc, dans le cadre de sa justice, il nous a sauvés en nous envoyant Jésus-Christ. C'est son équité, c'est sa justice. Si Dieu s'oppose, si quelqu'un s'oppose à Dieu, il est pécheur. Mais si quelqu'un ne s'oppose pas à Dieu, il est juste. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. On parle beaucoup de Dieu de la justice, n'est-ce pas? Alors, dans un pays aussi, il y a une constitution. On fait la constitution différente de la loi civile, en fait. La constitution, c'est la justice d'un pays. En fait, la justice représente, en fait, ce pays. Donc, si quelqu'un s'oppose à cette constitution, même en prison, peut être destitué. Alors Dieu est la justice, parce qu'il est sans péché. C'est la raison pour laquelle la loi de Dieu est apparue au Jardin d'Éden. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est apparue au Jardin d'Éden. La loi, c'est la justice de Dieu. La loi exprime le Dieu de la justice tel quel. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est l'expression de la justice de Dieu. Alors, on ne peut pas voir son visage, n'est-ce pas? Mais par l'intermédiaire de la loi, Dieu a manifesté sa loi au monde. Donc, même si on ne peut pas voir notre Dieu le Père, on peut voir sa justice, parce que c'est la loi qui est sa justice. Donc, lorsque Adam a violé la justice, il a péri. Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus qui est la justice de Dieu. En fait, Dieu n'a pas choisi une personne parmi une grande multitude d'hommes. Ce n'est pas Jésus-Christ. Hein? Lui, Jésus-Christ, n'est pas un homme banal, en fait. Jésus-Christ a été conçu dans le ventre d'une vierge. C'est Emmanuel, c'est la justice qui s'est manifestée dans le monde. C'est Emmanuel, c'est-à-dire que par le Saint-Esprit, il a été conçu dans le ventre d'une vierge. Et c'est un seul homme, c'est Jésus-Christ qui a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge. Donc,
Emmanuel
Le plan de Dieu qui a été établi depuis le commencement a été concrétisé avec la naissance de Jésus-Christ qui s'est fait par le Saint-Esprit. C'est ça la justice de Dieu. Jésus, répétez à votre, avec toute votre force. Répétez, Jésus est Emmanuel, la justice de Dieu. Lorsque vous chantez le cantique 515, nous parlons de la justice de Dieu. Donc, c'est Jésus qui est la justice de Dieu. Lui est mort, en fait, à notre place. Donc, il est mort à la place des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il a en fait obtenu par sa mort en fait? C'est l'Église. C'est l'âme des saints d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que nous l'expérimentions cela. Nous devons donc y croire, nous devons confesser. Et c'est ce qu'on appelle le baptême. Qu'est-ce que le baptême en fait? Le baptême, c'est quoi? C'est croire, confesser, expérimenter. Croire, expérimenter, confesser. C'est ça le baptême. Donc, lorsque vous avez été baptisé, qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelle est la différence entre ceux qui ont été baptisés et ceux qui n'ont pas été baptisés? Certains disent que le baptême est un rite, mais nous vous avons dit. Je vous ai dit plusieurs fois que le baptême n'était pas un rite. Le baptême, c'est la justice de Dieu. Vous dites que le baptême est un rite. Mais si vous le dites, vous profanez le nom de Dieu, vous le reniez, et parce que c'est l'incrédulité. Nous sommes pécheurs. Les pécheurs ne peuvent que périr. Il est dit dans Jean 3, 16. Il nous a donné Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés. Si nous croyons en lui, nous ne pourrons pas périr. Mais les incrédules ont été déjà jugés. Ils ont déjà péri. Ils ont été déjà destinés à périr. Ils ont été déjà jugés, en fait. Donc, en se faisant baptiser, alors, je vous ai dit, en fait, de l'équerre entre ceux qui ont été baptisés et ceux qui n'ont pas été baptisés. En fait, cet équerre est semblable à celui entre le royaume des dieux et l'enfer. Vous dites que le baptême est un rite, mais ça, c'est pas vrai. Alors, par le baptême, on a été mené de la mort à la vie. On a été mené de l'enfer au royaume des cieux. C'est une expérience historique qui est vraiment grande. Donc, la communion, nous le faisons chaque semaine, mais le baptême se fait une fois pour toutes. Donc, on a une seule occasion de se faire baptiser. On ne peut pas être baptisé deux fois. Si cela peut être possible, il faut que Jésus-Christ meure sur la croix encore une fois. Donc, cela signifie que c'est impossible de se faire baptiser deux fois, même si Dieu est plein d'amour. Il a en fait abandonné son fils unique. Alors ce dernier est mort à notre place. Donc il n'a plus sa vie biologique parce que cette vie-là est entrée en nous. Mais Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts par la vie de Dieu le Père. Il n'a pas été ressuscité de par sa propre force, mais il a été ressuscité par la vie de Dieu le Père. Pour que nous puissions être baptisés deux fois, il faut que Jésus-Christ subisse la mort encore une fois. Donc, c'est l'impossibilité pour Dieu le Père qui est tout puissant, en fait. Donc, on peut se faire baptiser seulement une seule fois pour toutes. Le baptême est vraiment précieux. Alors, nous avons reçu ce baptême qui est vraiment précieux. En se faisant baptiser, nous sommes sortis du statut de pécheur. Mais lorsque vous priez, en fait, vous pouvez ressentir un scrupule en étant attaché à votre propre conscience. Alors vous dites à Dieu, je suis pécheur, pécheur. Mais ce n'est pas l'humilité. Mais nous avons été déjà pécheurs. Mais nous sommes déjà sortis du statut de pécheur du passé parce que nous avons été baptisés. Vous avez été baptisés, mais si vous reprenez ce statut de pécheur qui a été déjà détruit lors du baptême, c'est impossible et c'est ce que vous ne devez pas faire absolument. C'est ce que vous devez absolument éviter de faire. Même si vous avez commis beaucoup de péchés après le baptême, vous ne pouvez pas entrer dans le feu de l'enfer parce que vous êtes déjà sorti du statut de pécheur initial. Vous pouvez en fait aller à l'enfer si vous ne croyez plus en Jésus-Christ. C'est votre décision, c'est votre choix. Mais si nous croyons en Jésus, si nous avons été baptisés, nous ne pouvons pas aller à l'enfer. Mais si nous ne le faisons pas, donc si on ne croit pas en Jésus, si on ne se fait pas baptiser, on ira en enfer, c'est évident. Mais en croyant en Jésus, en se faisant baptiser, on est sorti du statut de pécheur et on s'est uni à Jésus-Christ lors du baptême. Alors nos âmes donc, sont maintenant du côté de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nos âmes sont du côté de la justice. Donc c'est la justice de Dieu est entrée en nous. Cela signifie que Jésus-Christ est entré en nous. Cela signifie que la justice de Dieu est entrée en nous. La justice de Dieu est entrée en nous. C'est pourquoi nous avons obtenu la justification. Celui qui a une foi certaine et celui qui a été justifié. C'est là pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter de quoi manger, de quoi vêtir. Il faut que nous cherchions d'abord son royaume et sa justice. Il faut être rempli de sa justice seulement. À ce moment-là, nous devons être remplis de sa justice. De Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes un pécheur. Si vous avez été baptisé dans le cadre de la foi, lors de baptême, vous êtes uni à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est entré. En vous, et c'est ce dont témoigne le Saint-Esprit. Donc nous avons ainsi obtenu la justification. Mais quelqu'un dit, alors si ça n'a pas été baptisé, si je me fais baptiser juste avant de mourir, je serai parfaitement blanc, je serai parfaitement pur. Ça, c'est une pensée bête, stupide. Alors, si son raisonnement est correct, un enfant n'a pas besoin de se faire baptiser. Les enfants n'ont pas besoin de croire en Jésus depuis leur jeunesse. Parce que en vivant dans ce monde, on commet beaucoup de péchés, n'est-ce pas? On se querelle, on se dispute, on pêche, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on pêche, Jésus-Christ meurt sur la croix. La réponse est non. Parce que le baptême se fait une seule fois pour toutes. Alors après le baptême, on peut commettre des fautes. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la rédemption. La rédemption, c'est rembourser la dette du péché. En caractère chinois, si vous regardez en fait le caractère chinois, de ce mot, en fait, comment ça s'écrit. Alors, en fait, le mot sok et le mot je, alors le mot sok je signifie en caractère chinois le remboursement parfait de la dette du péché. Donc après le baptême, on peut pécher, n'est-ce pas? Parce qu'on est faible. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de ce péché? On peut dire humblement à Dieu, je suis un pécheur. Alors, pour prétendre être humble, je ne veux pas prétendre être humble. Mais il ne faut pas entrer trop profondément dans ce raisonnement. Parce qu'on s'est fait baptiser, on n'est plus pécheur. Mais si vous raisonnez trop profondément, trop sérieusement et vous dites que vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça, ce n'est pas possible. Alors, celui qui renie la mort de Jésus-Christ, celui qui renie la signification du baptême, celui qui renie la signification de la mort de Jésus-Christ ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ça, ce n'est pas possible. Même Dieu ne peut rien faire pour lui. Alors, si on est prétend être humble, ensuite, si... Alors, ce n'est pas la peine d'être prétendre être humble devant les anges. Si on le fait, on perd tout. Ce n'est pas la peine de prétendre être humble devant les anges. Cela signifie qu'il ne faut pas prétendre être humble devant les anges qui nous ont transmis la loi. Alors, si on le fait, on perdra tout. Il faut que vous compreniez cette partie de ce sermon-là. C'est la peine de dire « je suis un pécheur ». Mais vous dites, vous devez dire « j'ai commis un tel péché ». Parce que notre statut n'est plus celui du pécheur. Mais il faut que nous confessions tout simplement à Jésus-Christ « j'ai commis tel ou tel péché ». Donc, qu'est-ce qu'on doit faire devant le péché qu'on a commis, même après avoir reçu le baptême? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on ne peut que pécher jusqu'à la mort. On a besoin à ce moment-là du pardon de Dieu. Ce n'est pas la rédemption dont je parle. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Alors, Jésus-Christ qui a été ressuscité nous pardonne parce que c'est son droit. Jésus-Christ a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés des autres, ceux-ci seront pardonnés. Vous pouvez pardonner ceux qui ont péché contre vous. Ainsi, avant de se faire baptiser, le pardon n'a pas existé. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas être pardonné de nos péchés. En fait, dans la loi, il n'y a pas le pardon. Et alors, dans le cadre de la loi, on doit rembourser la dette du péché. Mais nous avons obtenu la justification en se faisant baptiser. Mais on continue de pécher, n'est-ce pas? C'est la raison, il est dit dans la Bible. Et Dieu nous pardonne de nos péchés. Alors, on pardonne les torts des autres. Ainsi, nous pouvons aussi être pardonnés de nos torts par Dieu. Regardez 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Alors, 너희가 이게 우울 받은 자들이 자꾸 이렇게 허물이 있다 이어. 그런데 그렇다고 죄를 저도 좋다는 것이 아니라 짓지 마라. 짓지마는데 혹시 죄를 짓게 되어 침례받은 후에 허물이 있다면.
Dieu nous dit ne péchez pas, mais si on pêche.
우리를 위해서 대언자가 있다.
Il y a un avocat qui nous défend, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui est notre paraclet, mais Jésus-Christ aussi qui est notre paraclet, notre avocat. C'est lui qui nous défend lorsque nous péchons. C'est Jésus-Christ qui est notre avocat et qui se repent à notre place pour nous défendre devant Dieu le Père. Lui, il est le rédempteur. Donc, il a accompli la rédemption de l'humanité. Et après quoi, lui, il se charge aussi des péchés que nous commettons, même après avoir obtenu la rédemption. C'est-à-dire qu'il fait la rédemption, en même temps, il fait le pardon. Alors lui, en fait, il donc rachète le péché de l'humanité. En même temps, il a le droit de pardonner le péché des hommes justifiés. On parle d'une manière exclusive du sang de Jésus-Christ, mais par le sang de Jésus-Christ, nous avons déjà été affranchis de la maladie, de la perdition éternelle qui est dû au péché. Mais après notre conviction, nous continuons de pécher. Mais même si on pêche, on ne reprend pas le statut de pécheur. On peut toujours être pardonné de nos péchés commis inévitablement par Jésus-Christ, qui est notre avocat. Donc voilà, c'est le pardon de Jésus-Christ. C'est son droit. On utilise l'expression chinoise Soko Deje. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression-là? Alors, tue-moi, c'est ce qu'on supplie au roi du pays. Soko Deje signifie tue-moi. Mais ce que nous devons faire, ce n'est pas tue-moi. Non, ce n'est pas ça, en fait. On doit dire à Dieu, pardonne-moi, en fait, au lieu de dire, tue-moi. Donc, il faut toujours être sanctifié, purifié chaque jour. Mais si on pêche trop, ce n'est pas bien du tout. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Si... on pêche trop et si on est pardonné trop, ça c'est pas bien du tout. Si on le fait, on ne peut que périr, c'est pas bien du tout. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3 verset 1 à 15. Lisez. 1 Corinthiens 3 verset 1 à 15. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine? Quelqu'un dit, moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun, s'est planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Cela signifie que si on pêche trop, on bâtit la maison non pas avec de l'or, mais avec du chaume, avec de l'herbe. À ce moment-là, il n'y a rien qui va rester. Et lorsqu'il y a le jugement de Dieu, on n'aura pas de récompense. Donc, c'est le salut qu'on obtient, mais c'est un salut qu'on obtient en étant nu et au travers du feu. Voilà, donc à ce moment-là, on sera vêtu et d'un vêtement brûlé. Donc, il ne faut pas pécher librement. Après le baptême, on peut pécher. Inévitablement, à ce moment-là, on doit être pardonné. Il faut s'en repentir. Et il faut être racheté. Il faut être pardonné, en fait. La rédemption se fait une fois pour toutes, mais le pardon peut se faire d'une manière récurrente. Donc la loi, et on a entendu parler beaucoup de l'importance de la loi, hein, de sa fonction. La loi aussi, c'est la justice de Dieu, mais en fait, 1 million d'Israélites donc Dieu nous a présenté en fait, nous a montré la loi. La loi constitue les ordonnances relatives à la chair. Alors si on respecte la loi, notre chair ne sera pas maudite. On n'est pas béni si on respecte la loi de Dieu. Dieu nous a déjà béni, mais l'homme ne peut pas supporter cette bénédiction de Dieu. Tout le monde a été béni lors de la naissance. Alors, si on garde la loi, on peut obtenir la bénédiction. Mais si on viole la loi, on perd la bénédiction qu'on a obtenue. Et en ce moment, notre chair sera aussi maudite. Donc, la loi contrôle le corps. Donc, la loi devient la justice de Dieu. Ensuite, elle contrôle le corps de l'homme. Mais la loi ne peut pas sauver les âmes de l'homme. Les ordonnances relatives à la chair ne peuvent pas sauver les âmes des hommes. Ça, ce n'est pas possible. En fait, ici, le texte, on parle d'un bon samaritain. C'est une parabole qui a été présentée par Jésus-Christ. Donc, un bon samaritain, c'est Jésus ou pas? Mais ça, en fait, un certain nombre de pasteurs disent que ce bon samaritain est Jésus-Christ, mais ça, ce n'est pas correct. À Jérusalem, un bon samaritain a rencontré un brigand, alors il devait subir la mort, il a été maudit, en fait. Alors, où se trouve Jérusalem? Alors, qu'est-ce que c'est Jérusalem? Jérusalem, c'est le berceau de la loi où les pharisiens vivaient. C'était la terre des pharisiens, c'est Jérusalem. Les pharisiens aiment la loi. Les pharisiens respectent scrupuleusement la loi. Donc, Jérusalem, c'est la ville où ces pharisiens vivaient. Il y a eu donc un grand nombre de pharisiens dans la ville de Jérusalem. Dans cette ville, il y a beaucoup de docteurs de la loi. Alors là, pendant 46 ans, eux, en fait, ils, garder le temple de Dieu qui a été bâti par les mains de l'homme. Et s'il garde bien ce temple de Dieu, il pouvait être protégé. Donc, il pensait à tort qu'il servait bien Dieu le Père dans le temple, dans ce sanctuaire bâti par les mains de l'homme. Mais quelqu'un qui est sorti de cette ville de Jérusalem a rencontré un bon samaritain. Il a cru par la loi et il a été perfectionné. Il a accumulé beaucoup de connaissances, d'expériences selon la loi. Et il est sorti de cette ville de Jérusalem. Et lorsqu'il est descendu à Jéricho, il a rencontré un brigand. Et un lévite l'a vu. Quels sont les lévites? Eux, en fait, ils se chargeaient de l'offre des sacrifices. Ce sont les lévites. Eux, ils ne vont pas à l'armée. Ils ne travaillent pas non plus. C'est tout ce qu'ils font, c'est servir Dieu dans le sanctuaire. Eux, ils s'occupent seulement du respect de la loi, de l'observation de la loi. Donc, de cette tribu, les grands sacrificateurs sortent. Les grands sacrificateurs, eux, ils nettoient le sanctuaire. Eux, en fait, ils gardent la loi et ils gardent, en fait, la loi. Et c'est ce qu'ils font. Et Dieu leur a donné les dîmes offertes par lesquelles ils vivent. Non seulement les pasteurs d'aujourd'hui vivent par les offrandes des saints, les lévites, eux, donc, les Lévitiques, eux, en fait, ils s'occupaient tout simplement du service qui se fait dans le sanctuaire de Dieu. Un Lévitique a passé outre quelqu'un qui est rentré en brigand. Les Lévites, eux, ils se font circoncire 8 jours après leur naissance. Ils ont respecté la loi d'une manière parfaite, mais ils n'avaient pas la force de sauver celui qui a rencontré un brigand. Et un sacrificateur aussi, il a passé outre, il ne pouvait pas sauver cette personne ayant rencontré ce brigand. Cela signifie que la loi ne peut pas sauver ceux qui souffrent après avoir rencontré un brigand. Même la loi, même même si on respecte la loi parfaitement en se faisant circoncire 8 jours après la naissance, on ne peut que périr. On peut périr à tout moment. Alors même si vous ne violez pas la loi, vous ne pouvez pas être sauvé. Vos âmes ne peuvent pas être sauvées. Il y a eu un Samaritain qui a vu cette personne ayant rencontré un brigand. Les Samaritains sont des païens. Ils sont très lointains de Jérusalem. Jésus-Christ voulait voir de l'eau en étant aidé par un Samaritain. C'est pour, à ce moment-là, les Juifs ont critiqué Jésus-Christ. Parce que les Juifs n'avaient aucun contact avec les Samaritains. Les Samaritains n'avaient aucun contact avec Jérusalem, c'est-à-dire avec la loi. Mais cette personne, ce Samaritain, a accordé sa grâce à la personne ayant rencontré un brigand et alors qui était en train de mourir. Alors nous ne sommes pas nés par la loi. Ce n'est pas la loi qui est la justice pour nous. C'est Jésus-Christ qui est la justice pour nous. C'est Jésus-Christ qui est entré en nous. Nous le servons. Il est entré dans notre cœur et nous le servons. Ainsi, Vous et moi, nous n'avons aucune justice. Nous n'avons aucune justice de notre part, mais seulement par la grâce de Jésus-Christ, nous avons obtenu la justification. Nous sommes des Samaritains. La loi ne peut pas nous sauver. La loi est impuissante devant les pécheurs et devant les misérables qui sont en train de mourir. C'était les Samaritains qui ont sauvé un misérable. Ce sont les Samaritains qui ont réglé le problème qui n'a pas pu être réglé par les sacrificateurs, par les Lévitiques. Celui-là est notre ami. Donc, qui a souffert maintenant? Jésus-Christ est mort à notre place en étant crucifié. Lui, en fait, il a subi la malédiction qui a été due aux hommes. C'est lui qui s'est chargé de notre malédiction, à notre place. Donc, un bon Samaritain a trouvé une personne ayant rencontré un brigand. Donc, la personne ayant rencontré un brigand, c'est Jésus-Christ. La loi ne peut pas sauver Jésus-Christ. La loi a tué Jésus. Les Lévitiques ne peuvent pas sauver Jésus. Les gens de Jérusalem ne peuvent pas sauver Jésus. Eux, ils peuvent tuer Jésus, mais ils ne pouvaient pas le sauver. Qui a sauvé Jésus-Christ? Ce sont les Samaritains qui ont reconnu Jésus. Ce sont ceux qui, ayant reçu la grâce de Dieu, qui ont reconnu Jésus. Cette année, notre Église a énormément souffert. Notre Église a subi d'énormes tribulations et de persécutions. Aujourd'hui, il y aura l'Assemblée générale où nous allons écouter le compte rendu de la situation de l'Église qui a été vraiment mauvaise et mauvaise, négative. En fait, j'ai tout planifié pour que l'Église puisse sortir de l'endettement. Alors, vers 2026, notre Église a pu totalement se libérer de l'endettement actuel. Mais à cause d'eux qui ont déstabilisé l'Église, et celle-ci souffre énormément et en grande difficulté financière. C'est ainsi que notre Église a rencontré un brigand. Alors, qui va devenir le prochain, le voisin, l'ami de cette Église? Qui va devenir l'ami de Jésus-Christ? Qui est l'ami de Jésus? Qui est l'ami de l'Église? Qui a aimé Jésus-Christ? Et c'est ce que je répète, en fait. Donc, il ne faut pas être indifférent vis-à-vis Jésus-Christ, vis-à-vis de l'Église. Si vous êtes attaché à votre propre conscience, si vous êtes attaché à la loi, si vous êtes attaché à la religion, vous ne pouvez qu'être indifférent vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Jésus-Christ. En participant à l'Assemblée générale d'aujourd'hui, il ne faut pas être dans l'indifférence. Il faut qu'on s'intéresse à l'Église qui est en train de mourir après avoir rencontré un brigand. Jésus-Christ a souffert. Il faut que nous devenions ses amis. Il faut que nous devenions les voisins de l'Église qui est le corps de Jésus-Christ. Et il faut que nous accordions notre amour à Jésus, à l'Église. Aujourd'hui, il y aura un certain nombre d'événements. L'association Salaré a beaucoup secouru l'Église, mais ce n'est pas suffisant du tout. Aujourd'hui, on a donc collecté environ 140 millions de won. Mais quel est le montant de la dépense de l'Église? C'est environ 3 milliards de won. Donc, regardez ce qu'on doit faire. L'église doit dépenser environ 3 milliards d'euros chaque mois. Mais en fait, aujourd'hui, on a collecté seulement 140 millions de won. Donc, ce n'est pas suffisant du tout. Nous devons dépenser celui qui est 20 fois plus élevé que ce montant-là collecté par l'association Salang. Quelle est la cause de cette situation? En fait, eux, ils seront jugés sévèrement par Dieu, je pense. J'en suis certain. Il faut aimer l'Église. Aimons l'Église. Il faut qu'on soit intéressé par l'Église. Il ne faut pas que nous soyons indifférents vis-à-vis de l'Église. Il faut que nous devenions le voisin de l'Église. Seigneur, Seigneur, je deviendrai un bon samaritain qui peut aider l'Église. Je deviendrai ton ami, je deviendrai ton voisin, je deviendrai l'ami de l'Église. Seuls nous pouvons le faire. Il ne faut pas seulement aider celui ayant rencontré ce brigand une seule fois. Ce bon samaritain voulait prendre soin de cette personne d'une manière continuelle. Levez-vous, le Seigneur nous a supplié. Ainsi, donc, c'est l'explication de Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions donc cette vérité. Soyons bien clairs, il y a donc une grande différence entre les Samaritains et les Lévitiques et sacrificateurs. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Donc, nous devons devenir de bons Samaritains. Si nous avons obtenu la justification, nous sommes donc membres de Jésus-Christ. Personne ne peut nous mépriser parce qu'on a obtenu la justification. C'est ce que nous devons croire. Prions tous ensemble. Dieu nous a donné sa justice. En fait, il nous a purifié de nos péchés. Il nous a donc pardonné. Il nous a justifié. Il faut que nous soyons donc intéressés par l'Église, par le Saint-Esprit. Devenons amis de l'Église. Priez sincèrement.
Alors,
vous m'avez accordé beaucoup d'amour. Alors, merci de le faire. D'avenir aussi. Alors, vous m'aimez beaucoup. Donc, vous devez aimer aussi l'Église. Vous devez aussi aimer le Seigneur. Vous pouvez le faire seulement par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à le faire. Prions donc pour cela.